Fort Matin Dimanche avec Cyrière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 octobre, SMD, Sport Matin Dimanche, Vincent Nori, bonjour.
Salut Patrice, bonjour à vous, très heureux d'être avec vous effectivement ce dimanche matin. Des résultats de foot, de basket, de hand, de volley, de rugby. Retour sur le FC Bressuire qui jouait hier soir face à Rochefort, sur Cholet Basket à la maison face au BCM Gravelines Dunkerque. Retour également sur les 70 ans et l'Assemblée Générale du CNBB, comprenez le Cercle des Nageurs du Bocage Bressuirain. Et retour aussi sur les Jeux Olympiques. D'Hugo Hay, comment va-t-il? Comment a-t-il vécu ces jeux? Cette polémique, quelle suite a donné? Entretien au cours duquel Hugo n'élude aucun sujet. Bon dimanche à tous, SMD, c'est parti.
Quel programme?
Sport Matin Dimanche avec Cyrière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Allez, un petit clin d'œil ce matin, si vous le voulez bien, à la rando gustative de la Mâchoire du Diable à Chanteloup. Ça y est, tous les participants, qu'ils soient à pied ou en VTT, viennent de s'élancer depuis le stade de Chanteloup. Une Mâchoire du Diable initiée par Roico Nicolas Roy. Et évidemment, nous aussi, on a une pensée ce matin pour Roico, tant il a été énergisant, notamment, mais pas que, hein, durant ces années passées au sein de l'équipe de Colline La Radio. Sans transition aucune, la page foot, on la débute avec le championnat de Ligue 1. Les premiers matchs, vendredi soir, Angesco est allé chercher un bon point du match nul face à Marseille, 1-0. Hier, Saint-Etienne s'est imposé 3-1 face à Auxerre avec un seul et même buteur. Lille s'est imposé face à Toulouse 2-1 et enfin Monaco est venu battre Rennes hier soir sur ce même score de 2-1. À noter cet après-midi qu'à 15h, les Nantais s'en vont jouer à Lyon. Brest recevra Le Havre à partir de 17h. Reims, Montpellier, Strasbourg sera opposé à Lens. Et puis clôture de cette 7e journée du championnat avec Nice à la maison qui accueille le Paris Saint-Germain. Dans le championnat de Ligue 2, les Bastiais n'ont pas pu se rendre à Pau dans le cadre de cette 8e journée. On a joué à Annecy où l'équipe des Alpes s'est imposée face au Red Star 1-0. Dunkerque l'a emporté face à 3-1. La victoire du Paris FC face à Laval 1-0. Rodez qui bat Grenoble 2-1. Le score de parité entre Ajaccio et Martigues 1-0. Lorient s'impose à Caen 2-1. Clermont s'est imposé à la maison au stade Gabriel Montpied face à Guingamp 4-1. Et enfin, hier soir, la victoire de Metz aux dépens de Amiens. La victoire des Messins de Le Mignan, 3-2. Le classement, le Paris FC est en tête avec 18 points. Lorient est second avec Dunkerque, deux équipes qui totalisent 16 points. Ensuite, avec 15 points, Metz et Annecy. Bas de classement, 16e, Rodez avec 6 points. Martigues est avant-dernier avec 5 points. Et c'est 3 qui ferment la marche pour l'heure de ce championnat avec 4 points. Le championnat de national et la victoire est vendredi de Aubagne aux dépens de Boulogne-sur-Mer, 3-0. Concarneau qui s'est imposé face à Châteauroux, 3-1. Le succès de Nancy qui prend du même coup la tête de ce championnat co-leader, les Nancéens, 1-0 face à Bourg-Péronas. Nîmes-Sochaux, hein, c'est un match qui sent bon la Ligue 1 il y a de cela quelques années. C'est du 1-0 entre les deux équipes. 1-0 également entre Orléans et Dijon. Quevilly-Rouen l'a emporté à Paris 13 à Atlético 1-0. Valenciennes et Villefranche ont fait match nul 2-2. Match nul également sans but cette fois entre Rouen et Versailles. Nancy, je vous le disais, leader avec 15 points en compagnie de Concarneau. Juste derrière, on retrouve Boulogne avec 14 points. Dans le bas de classement, 6 points avant-dernier, Paris 13, Atlético et Châteauroux. Et c'est Villefranche qui est dernier pour l'heure avec 5 points et toujours aucun match remporté. Le championnat de National 2 avec vendredi soir le match nul entre Avranches et Bourges, 1-0. La victoire de La Roche-sur-Yon à la maison face à Granville s'était imposée 4-1. Hier après-midi, beaucoup de monde, 2500 spectateurs sur le stade des Rives du Thouë. C'est à Saumur, les hommes de Patrick Olive jouaient face aux Girondins de Bordeaux. Les Girondins se sont imposés 2-1. Blois perd sur sa pelouse face à Dinan 1-0. Le Stade Poitevin s'impose à Saint-Privé 1-0. Le Poiré n'a pas gagné. Défaite une nouvelle fois pour les Genoux à Saint-Malo cette fois 3-0. Victoire des Herbiers en déplacement à Châteaubriant 2-1. Et enfin, le derby breton, en quelque sorte, entre Saint-Brieuc et Locminé, qui tourne à l'avantage des briochins. Victoire de Saint-Brieuc, 1-0. Le classement après 7 journées de championnat, c'est Saint-Malo qui est leader avec 17 points, Saint-Privé-Saint-Hilaire second avec 16 points, on retrouve Saumur 4e avec 11 points, les Herbiers sont 8e avec 9 points, La Roche-sur-Yon 10e avec 8 points en compagnie du Stade Poitevin. Et dans le bas de classement, eh bien, le Poiré survit dernier avec 3 points. Le championnat de National 3 avec Choret qui s'est imposé hier soir à la maison face à Chaland. Victoire des hommes de Fabrice Fontaine, 1-0. La Châtaigneraie s'est également imposée à la maison face à Angesco, les réservistes 2-1. Mais le fait marquant, hein, c'est qu'un joueur de la Châtaigneraie, eh bien, est sorti inconscient. Il venait de frapper un coup franc depuis son camp. Et Alexis Lécaille, eh bien, a été emmené par les pompiers. Le match a été interrompu pendant de longues minutes. C'est plutôt le fait marquant au-delà de cette victoire de la Châtaigneraie face à Angesco 2-1, car il est sorti inconscient du terrain. Des nouvelles à venir dans les prochaines heures, certainement pour le protéger de Charles Devineau, une réserve d'Angers qui était avec Diony et Ounou, les joueurs classiquement professionnels qui sont rentrés pour la dernière demi-heure de cette rencontre. Dans ce même championnat, vous noterez que les réservistes de Laval ont battu Saint-Philbert 2-1, que Sablé et Saint-André-d'Ornay, La Roche-sur-Yon ont fait match nul 2-2, que Vertoux a battu Rennes 3-1, que Fontenay-le-Comte va chercher le point du match nul à Vitré 1-2, et que la réserve nantaise s'en ira jouer cet après-midi à 15h contre Panazol. Le classement après 5 journées, c'est la Châtaigneraie qui est leader avec 12 points, Chaland est second avec 9 points, on va retrouver les Chorésiens à la 7e place, 7 points après 5 journées, 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Pour les deux Sévriens, bas de classement avec Sablé avant-dernier 4 points et c'est Rennes qui ferme la marche pour l'heure avec 3 points. Les championnats régionaux, et on commence par la régionale 1 avec hier soir Périgny qui a battu Brive 1-0. Buxerolles et Fétiane ont pu se départager, c'est du 2-2. Le succès de Cozes en déplacement à Neuville 2-1. Et puis deux courts succès pour nos équipes nord de Sévrienne. Du côté de Thouars, les hommes de Pierre Naudet s'imposent 1-0 face à Hill. Le buteur Jordan Battet à la 22e. Et puis côté Bressuirais, victoire là encore sur le plus petit des scores, 1-0. La première réaction, eh bien, c'est le compte-rendu de cette rencontre. L'œil de Jean-Michel. Comment Jean-Michel Bernier a-t-il vu cette victoire des Bressuirais?
FCB La Rochelle 1-0. Avec une première mi-temps tout en maîtrise par le FCB, mais sans réelles occasions, le premier tir intervenant à la 40e minute, devant une défense très bien organisée et très regroupée. Même quelques pertes de ballon ont entraîné quelques situations délicates pour le FCB. En deuxième mi-temps, le match a été beaucoup plus enlevé, beaucoup de débordements sur les ailes. Charif a trouvé le poteau à la 58e et la délivrance est arrivée à la 80e sur un superbe centre d'Egonga repris de la tête par Chawan. Pour l'anecdote, le Ray a manqué un pénalty dans les arrêts de jeu.
Ouais, Jean-Michel s'est trompé, hein. C'était bien les Maritimes qui venaient défier le FC Bressuire, mais un petit peu plus au sud que ceux de La Rochelle. On parlait bien sûr de Rochefort. Alors, le nouvel entraîneur, Samir Bakir, qui est arrivé, qui a été nommé cette semaine, qualifié hier soir pour coacher son équipe. Eh bien, comment a-t-il vécu cette rencontre? Évidemment, déjà, on peut supposer, et vous allez l'entendre, qu'il est satisfait de ce court succès 1-0.
Moi, on a mis du temps à se dessiner, même si, pour moi, on fait une super première mi-temps où dans l'intensité, on est largement au-dessus d'eux. Après, voilà, offensivement, c'est sûr qu'il y a eu des déchets techniques, des ajustements aussi dans les déplacements où on ne s'est pas toujours trouvé correctement, mais c'est normal, il y a eu des cheminements, c'est un peu nouveau pour eux, donc effectivement, voilà, ça va aller de mieux en mieux. Un projet de jeu, ça se met pas en place en deux séances, mais j'ai vu déjà que les garçons ont respecté le plan de jeu, notamment sur l'animation défensive, et offensivement ils ont essayé de faire les choses. Donc après, quand c'est une erreur technique, moi ça me dérange pas, hein. Aucun souci, quand on entreprend et on respecte le plan de jeu, il y a aucun problème. Voilà.
Victoire et satisfaction donc pour le nouvel entraîneur Samir Bakir au micro de Jean-Michel Bernier. Les Bressuirais qui sont leaders après 5 journées de championnat, 11 points. 3 victoires, 2 matchs nuls et pour l'heure 0 défaite. Les Neuilly-au-Bray, quant à eux, étaient au repos forcé. Ils étaient exempts pour cette journée de championnat. Le championnat de Régional 2 avec la poule A pour débuter. La défaite de Montcoutin en déplacement à Chauvigny, 2-1. C'est Dompierre qui s'impose face à Ligugé, 3-1. Le score de parité, 1-1 pour Parthenay qui s'en va chercher ce point du match nul à Saint-Savin. Ruffec-Beaumont, c'est du 3-2. Et puis cet après-midi, on a un beau derby entre le Talus et la réserve de Thouars. Et puis Ozon jouera face à la réserve de Poitiers. Régional 2 toujours, la poule C. Ils se sont imposés, eh bien, les joueurs de Bassins face à Saint-Florent. Victoire des Nordistes Bordelais, 2-0. Saint-Liguère s'est imposé à Saint-Thierryx. Belle victoire des Léo-de-Gardiens, 2-0 également. Et puis l'Alliance Foot a battu Senon, 3-1. Cet après-midi, vous noterez que la réserve de Choret a un derby face à l'Avenir 79, que l'Étoile Maritime joue face à Sireuil et que Jarnac sera opposé face à Leroy Angoulême. La Régionale 3, la poule A, 3 rencontres hier avec pas mal de buts du côté du CO Cerizet, puisque les hommes de Cédric Fuseau se sont imposés face aux réservistes bressuirais 6-2. Nintré l'a emporté face à Châtellerault, les réservistes 1-0. Et puis Onis qui s'impose face à Vrine. Les deux Sévriens s'inclinent sur le plus petit des scores, 1-0. Cet après-midi, à la maison, Aubin-Orthez qui accueille Chasseneuil, Beaumont-Saint-Cyr qui joue face à Lalleux, et puis Inter-Bocage à la maison également, match derby du Nord hein, face à Saint-Sauveur. Régional 3, la poule B, avec hier soir le match nul de Gatifoot face à Ligugé, 3-0. Autre score de parité pour le FC Autise en déplacement au FC Rethet, 0-0. Et puis Champenier s'est incliné face au Diable Rouge, victoire des Diables Rouges, 3-0. Cet après-midi, nos équipes de Sévrienne, Échiré-Saint-Gelais qui joue à la maison face à Niolles-l'Espoir et Sud-Gâtine sur sa pelouse face à Mignaloux-Beauvoir. La poule C et le match pour les Chamois-Niortais qui jouaient face à Saint-Palais et l'équipe des Chamois s'est imposée 2-1. 500 spectateurs à René Gaillard, il fallait quand même le souligner. Succès, ça y est, c'est parti du côté sportif, on a envie de dire. Bon, il semble que du côté un peu financier, administratif, la semaine va être hyper importante, capitale même pour les Chamois qui ont enfin retrouvé le terrain en championnat. Toutes les rencontres dans cette poule C auront lieu cet après-midi. Le Pays Mélois sera en déplacement à Matha, Selverine déplacement également face à Royan-Vaux et les réservistes de Saint-Florent joueront quant à eux à la maison face à Linard. On sera complet pour vous indiquer eh bien qu'en Coupe de France, hein, avant de parler des championnats départementaux, Coupe de France avec le tirage au sort du 5e tour qui aura lieu demain. Demain lundi 7 octobre à 19h30. On parle des championnats départementaux. Les voici en D1. 2 matchs hier soir. C'est Saint-Aubin-le-Clou qui s'est imposé au Pays Mexantais 2-0. 3 matchs, 3 victoires. Carton plein pour Hervaux-Saint-Juin. Victorieux hier soir du Pays Néo-Crêchois. Hervaux-Saint-Juin s'est imposé 4-1. Cet après-midi, Niort-Saint-Liguère, les réservistes face au FC 3C. Le Pays de Loing à la maison face à Thouars. Saint-Varan-Pierre-Jay face au Talus. Et Vouillé accueillera Saint-Cerbouillet. La départementale 2, la poule Nord pour débuter, avec hier soir les Portugais de Cerizet qui s'imposent à Gatifoot 2-1. Et puis hier soir également, le carton plein pour la réserve de Noyaubier, bien joué. 3 matchs, 3 victoires pour les réservistes. La dernière en date, celle d'hier soir donc, face à Terve, 3-0. Cet après-midi, Beaulieu-Breuil à la maison face à Voulmentin-Saint-Aubin, le FC Comore qui accueille la réserve du CO Cerizet, Montcoutan face à Bressuire, duel de réserve, Saint-Sauveur face au Pays Argentonais. Dans la poule sud, un match hier soir, c'est Parthenay-Viennet, les réservistes ont battu Mauzé-sur-le-Mignon 4-0. Cet après-midi, vous noterez que Choret joue face à l'Avenir 79, que le FC Autise sera opposé à Périgné, que Frontenay-Saint-Symphorien accueille Beauvoir et que la Venise Verte jouera sur sa pelouse face à Échiré-Saint-Gelais. Les résultats, les premières réactions ce soir dans Sport dimanche dernière et ce à partir de 18h.
Sport matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Et que dire de l'éclatant succès hier soir des Choletais qui ouvraient eux aussi leur championnat sur leur parquet de la Mairie. Ils avaient ouvert à La Rochelle la semaine dernière. C'était le premier match à la maison. Une salle de la Mairie qui était comble, qui avait fait guichet fermé pour accueillir Gravelines de Dunkerque. Et l'éclatante victoire des hommes de Fabrice Lefrançois, 106 à 74. Il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas commenté un match avec un tel écart, qui plus est en faveur de Cholet Basket. Il fallait pour que vous compreniez qu'on interroge et qu'on vous fasse part des propos de Jean-Christophe Pratt, l'entraîneur de cette équipe du BCM Gravelines, parce qu'on voulait comprendre ce qui s'était passé dans cette rencontre. Et vous allez voir, Jean-Christophe Pratt, finalement, il est plutôt heureux que cette claque arrive tôt, et pourtant ce n'est pas faute d'avoir prévenu ses joueurs.
Je pense que c'est une belle opportunité qu'on a vécue ce soir. C'est une opportunité de comprendre que cette ligue, avant de jouer au basket, il faut d'abord s'opposer dans l'intensité. Ce soir, on n'a pas su répondre à ça. Donc voilà. Donc à partir du moment où déjà vous n'êtes pas intense, après c'est compliqué de jouer au basket. On a essayé, on est revenu à moins 16 à un moment en début de troisième quart-temps. Et puis là, on perd deux ballons tout seul. Je ne sais même pas pourquoi. Donc, après, vous savez, moins 16, ça va vite au basket. Mais là, il n'y a pas eu de son, pas de lumière. Donc ça arrive. Ça arrive. L'important, c'est bien. C'est ce que j'aurais dit dans le vestiaire. C'est bien que ça arrive tôt dans la saison. Ça va nous permettre d'apprendre de tout ça.
Ils ont tendu une joue, il ne faudra bien sûr pas tendre l'autre. Et puis vous avez peut-être entendu en arrière-son, il y avait le bal des policiers hier soir à côté de la salle. Donc évidemment, pendant la conférence de presse, eh bien on a eu le droit à des morceaux un peu des années 80. Voilà, c'était un petit peu épique. Voilà pour la réaction de Jean-Christophe Pratt. À l'inverse, évidemment, Fabrice Lefrançois, désormais seul à la tête de l'équipe Fagnon de Cholet Basket, avec ses assistants bien sûr, était lui forcément satisfait.
C'est une belle soirée. Alors il y a toujours le résultat, bien sûr, mais la manière, on marque 38 paniers, on fait 34 passes décisives, donc ça montre la volonté de partager. Défensivement, on a été usant, donc c'est ce qu'on cherchait. On a été dans notre plan de match. C'était une belle soirée, une belle première à domicile. Maintenant, le plus dur est à venir, parce que il faut maintenir cet engagement-là, et physiquement et mentalement. Voilà, en termes effectivement d'intensité, d'énergie, c'était vraiment bien.
Ouais, c'était vraiment bien. Une très très belle soirée qui avait débuté sous le signe de l'émotion, avec l'hommage rendu à Claude Marquis, tragiquement décédé le 25 août dernier. Son maillot a été retiré de l'effectif Choletais. Le numéro 11 maintenant trône tout en haut de la salle de la Mairie. Il est encore pour l'heure sur les épaules de Gérald Ayayi, mais dès que Gérald ne sera plus Choletais, plus personne ne portera le numéro 11. On en reparlera ce soir avec Monsieur Cattel, qui est allé chercher Claude Marquis il y a de cela très longtemps, alors que Claude était à Cayenne en Guyane. Le programme de Cholet Basket, il est important cette semaine, puisqu'il y a match dès mardi soir, Coupe d'Europe à la maison face à Fribourg. La rencontre à suivre sur les ondes de Colline. Et puis rebelote vendredi, c'est du championnat cette fois, avec un match ô combien important qui sera révélateur de ce que peut produire Cholet cette année, parce que c'est Saint-Quentin. Et Saint-Quentin, c'est une équipe qui va disputer sa deuxième saison dans le championnat élite, et une équipe qui joue très très bien au basket. Ce sera un véritable test, et c'est vendredi soir 11 octobre pour les hommes de Lefrançois. Et après, en championnat, eh bien écoutez bien, Monaco, Paris, Lasvel, rien que ça, les trois ténors du championnat pour défier cette équipe choletaise, ou c'est plutôt Cholet qui va aller défier ces trois ténors. En tout cas, pour l'heure, hier soir, on avait une super soirée, il y a eu une marque, tout le monde a marqué, tout le monde a bien joué, et c'est Braque, le jeune basketteur, la classe biberon un peu de Cholet Basket, qui a marqué le centième point. Tout un symbole pour cette soirée, entre émotion et excitation, avec cette salle de la Mairie qui a vraiment vraiment joué son sixième homme, et une équipe qui a fait bien plaisir à voir. On continue avec le basket et le championnat de la Ligue féminine. Il y avait un derby dans le championnat élite. C'est La Roche-sur-Yon qui jouait face à Angers. Les Angevines se sont imposées nettement en terre vendéenne. Victoire 66 à 46. Deux matchs et deux victoires pour l'équipe de l'UFAB. Dans le championnat de National 2. Les Niortais étaient trop diminués. C'est dommage, ils jouaient à la clameur hier soir. Les hommes de Laurent Hay jouaient face à Adour Dax. Eh bien, les Dacois se sont imposés 80-71. Une équipe niortaise qui n'était pas au complet. Et on sait qu'au basket, eh bien, dès qu'il y a un joueur qui peut manquer, un ou deux joueurs, même trois, eh bien, l'écart peut se faire et les visiteurs en ont donc profité dans cette salle de la clameur. Après quatre journées de championnat, eh bien, les Niortais enregistrent une victoire pour trois défaites. Dans le championnat de National, le 2, chez les filles, ça va bien pour les protégés du président Duflot, puisque Choret en déplacement à Garonne. Autre promu dans ce championnat de National 2, eh bien, les Choraisiennes se sont imposées 54-47. Le début de saison est bon. Trois matchs, deux victoires et une défaite pour les Choraisiennes. On parle de basket également, National 3 chez les garçons. La Séguinière hier soir à la maison face à l'EAB et l'équipe d'Angers, la réserviste. La Seg s'est imposée 70-57. Et puis National 3 féminine avec le Smash Vendéen qui jouait à la maison face à Fétia. Les Vendéennes se sont imposées 73-49. Du basket au niveau régional avec les Bressuirais en Régional 2 en déplacement à Sainte. C'est Sainte qui s'impose 74-66. Et puis en Régional 3, chez les garçons également, Saint-Jean-de-Thouars en déplacement à Iteuil, l'équipe de la Vienne s'impose 75-53. Et puis Nueil-Aubier, l'ACNA à la maison face à Angoulins, les deux Sévriens défaits 70-71.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Allez, un plouf dans l'eau, non, un plouf dans le bassin. On est en direct avec Sébastien Chevalier, le président du CNBB, comprenez le cercle des nageurs du Bocage-Bressuirais. Bonjour Sébastien.
Bonjour Vincent.
Merci beaucoup d'être avec nous sur les ondes de Colline en ce dimanche matin. Un club du CNBB qui tenait son assemblée générale, c'était vendredi soir, qui vient aussi de fêter ses 70 ans. On imagine, pour un club septuagénaire, que les clignotants sont au vert, président ?
Eh bien, écoutez, tout à fait, tout est au vert. Hein. C'est un début de saison, on va dire, un peu sur les chapeaux de roue, qui a démarré avec un forum qui nous a apporté beaucoup de monde, un forum très bien organisé par la MDA, hein, il faut le signaler. Et puis, oui, en effet, l'Assemblée Générale, vendredi, et là aussi, ça nous a permis de réunir pas mal de monde et puis récompenser tous nos nageurs.
Des nageurs qui vont bien, qui excellent dans leur catégorie ?
Ben écoutez, on va citer par exemple Cali Ravary qui a participé au championnat de France à Chalon-sur-Saône en décembre dernier, la saison dernière. Donc oui, un collectif en pleine forme. Et je pense qu'il est voilà avec une bonne cohésion et c'est ce qui nous tient beaucoup à cœur au niveau du cercle des nageurs de Bocage-Bressuirais.
Ouais, est-ce qu'on a un regard sur cette longévité de ce club, Sébastien ? Comment est-ce qu'on l'explique en fait ?
Alors je pense qu'on peut l'expliquer parce que je pense que régulièrement voilà c'est surtout un club comme toutes les associations où il y a un gros collectif de bénévoles et qu'il faut remercier régulièrement et qui font un super boulot et voilà et avec des entraîneurs salariés qui sont diplômés et qui sont passionnés et qui permettent à la natation de perdurer quoi.
Il y a des échéances à venir là pour le CNBB.
Ah ben les échéances, oui, le 20 octobre, le deuxième meeting de Bressuire, dans lequel on peut déjà annoncer qu'il y aura le club de Carquefou qui va venir avec deux nageurs déjà qualifiés au championnat de France. Donc je pense que le niveau augmente et c'est le deuxième et on va, je pense, faire encore complet avec 200 nageurs.
Ouais, j'ai aussi le sentiment que votre club rayonne et attire. Je pense à ces deux athlètes, vous venez, ces deux nageurs qui vont participer au championnat de France. Je pense l'année dernière à l'Angevine Zoé Dupont aussi, qui excelle dans sa discipline, qui était venue à Bressuire.
Oui, tout à fait. C'était notre marraine Zia Dupont.
Zia, pardon.
qui est venue gentiment sur le bassin à Bressuire et qui ensuite a été championne de France du 200 brasses. Quelques mois après, donc oui, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des nageurs qui viennent sur Bressuire.
Ouais, et j'imagine que si ces très bons nageurs viennent, c'est que bah ils s'y retrouvent dans ce que vous proposez, dans ce que vous vivez.
Oui. Puis c'est surtout parce qu'on a on a des entraîneurs qui ont un bon réseau et qui avec qui on s'entend très très bien avec beaucoup de clubs aux alentours, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine ou dans les Pays de Loire. Voilà, et les relations, les réseaux et la bonne ambiance du club fait que ces nageurs viennent chez nous. Oui.
Évidemment, au sortir de ces Jeux Olympiques, la question elle brûle, elle est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'il y a un effet Léon Marchand du côté du CNBB?
Écoutez, je pense qu'on peut dire que oui, parce que on l'a vu au niveau du forum avec beaucoup de renseignements à donner aux personnes sur la natation, sur ce qu'est la natation. Hein. Donc, on peut rappeler que au niveau du CNBB, on est vraiment dans de l'apprentissage et du perfectionnement sur les quatre nages, hein, les quatre nages qualifiés de la FFN. Qu'on retrouve essentiellement dans des clubs associés affiliés à la Fédération Française de Natation. Et dans le premier mois, on atteint déjà 230 adhérents, alors que la saison dernière, nous étions à 214. Donc je pense qu'on va pulvériser un petit peu le nombre d'adhérents.
J'ai Patrice qui, dans mon oreille, pendant que vous répondiez à la question, Sébastien, vient de me glisser. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que la natation est un sport complet? Je transmets la question.
Alors c'est un sport complet parce que c'est un sport qui travaille vraiment l'ensemble du corps et sans choc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traumatisme, on va dire, mettons au niveau des genoux, des coudes, etc. Et c'est vraiment complet, que ce soit jambes, bras, gainage, c'est un sport complet, voilà, et sans traumatisme. Et on travaille aussi bien le cardio, l'endurance et l'ensemble du corps. Donc c'est ce qui fait la natation un très très bon sport.
Alors peut-être que vous aurez un 241e, hein, c'est ça, licencié bientôt.
Patrice, je m'engage pas.
Patrice avait l'air d'être assez motivé. Quelle formidable locomotive que ce Léon Marchand, parce que longtemps on a pu dire que la natation c'était un sport qui était pas forcément rigolo, on est la tête sous l'eau, enfin c'est pas forcément toujours simple par rapport à des sports co, mais Léon Marchand c'est formidable quand on est président d'un club d'avoir ça dans en France.
Oui, c'est forcément, oui, c'est comme vous le dites, c'est une locomotive pour la natation. Hein. Il a montré ce sport, il l'a mis en avant et je pense qu'il l'a très bien fait. Maintenant, oui, c'est beaucoup de longueur, c'est un sport qui est rigoureux, c'est un sport qui est où les nageurs doivent s'engager, mais dans une association sportive, il n'y a pas que le côté compétition, il y a aussi le côté nager pour rester en bonne santé, il y a aussi nager en loisir, et il y a tout un panel de développement autour de la natation qu'on peut accentuer dans un club.
Au-delà d'être un super athlète, c'est aussi, ça a l'air d'être un super garçon. Je sais pas si vous avez vu l'émission cette semaine avec Yann Barthès, Le Quotidien, là, où il était l'invité et tout le monde, il n'y avait pas un bruit sur le plateau. C'était extraordinaire tout ce qu'il racontait, ce Léon Marchand.
Bah, je pense que le travail accompli et l'humilité font que c'est un personnage, oui, très intéressant et on est forcément admiratif.
Bon, alors, si on a des gens comme Patrice, là, qui nous écoutent, qui se disent, tiens, finalement, le CNBB, ça m'intéresse, on fait comment, Sébastien?
Eh bien, écoutez, vous allez sur le site internet cnbb79.fr et là vous allez trouver tous les détails au niveau de l'inscription, ou alors vous venez nous voir directement à cœur d'eau. Nous on vous ouvre les portes, on peut essayer, on peut se familiariser et ensuite se décider sur ce qu'on a à faire, sur si on veut vraiment se lancer. Mais je pense que faut pas hésiter. C'est un sport exigeant, mais c'est un sport sans traumatisme. Et nous, au CNBB, l'avantage et ce qu'on essaie vraiment de mettre en avant un maximum, c'est la convivialité, la familiarité qu'on peut retrouver dans les associations sportives.
Bon, j'ai une dernière question, Sébastien. Quand on a plus de 50 ans, qu'on n'est pas un bon nageur, est-ce qu'on peut devenir meilleur nageur ou est-ce que c'est perdu?
Ce n'est pas perdu du tout, puisque j'ai plus de 50 ans, je nage depuis peu de temps et on s'améliore parce que ben on est un collectif, on est tous ensemble et puis je le répète, on a des entraîneurs vraiment qualifiés, diplômés et passionnés qui sont là pour vous conseiller, vous rectifier la nage et donner des programmes vraiment adaptés à chaque projet sportif. Donc quand on a plus de 50 ans, on peut y aller.
Un sport individuel mais très collectif quand même.
Voilà, tout à fait. Oui, on y tient beaucoup. Les déplacements en compétition sont vraiment collectifs. Les nageurs ne s'en vont pas tout seuls. Il y a un collectif et on y tient beaucoup puisque voilà, c'est un sport individuel mais très exigeant. Donc si on reste tout seul, on va pas forcément loin. On va toujours plus loin ensemble.
Merci beaucoup, Sébastien.
Merci.
Merci beaucoup, Sébastien Chevalier, le président du Cercle des nageurs du Bocage Bressuirais. La locomotive Léon Marchand qui agit également sur nos clubs et notamment sur le CNBB. Sport.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Alors d'autres également qui jouent leur rôle de locomotive, eh bien ce sont les frères Lebrun. On parle de tennis de table évidemment. On vous en avait parlé il y a de cela quelques semaines, hein, avec ce prochain beau rendez-vous du côté de la Stella Sport La Romagne, l'équipe qui évolue en élite et qui va accueillir Montpellier. Ce sera le mardi 29 octobre. Le match, c'est confirmé, aura bien lieu à la Meilleraie. Et je peux vous dire, et on va faire des déçus, que la salle sera complète. 4000 personnes, tous les billets sont vendus. Mais, alors vous allez me dire, mais à la Meilleraie, il y a un peu plus de spectateurs. Oui, mais il y a la grande tribune qui est réservée pour tous les officiels et tous les partenaires de la Stella Sport. Donc on sera à guichet fermé pour cette rencontre qui n'est qu'à la fin du mois, hein. Rendez-vous compte, on est le 6 octobre, ce sera pour le 29, le mardi 29 octobre, donc plus de place à vendre, mais les dernières places sont effectivement, Patrice, vous avez raison, on fait un petit teaser, les dernières places seront à gagner sur Colline, vous restez bien à l'écoute et il y aura la possibilité de repartir avec des places pour aller voir les frères Lebrun dans cette rencontre. Ce sera la deuxième journée de championnat, la Romagne face à Montpellier à la Meilleraie le 29 octobre. On ouvre et on continue. Tiens, on a parlé des jeux avec Léon Marchand, on a parlé des jeux avec les frères Lebrun et le tennis de table. Eh bien, la transition est un peu toute faite pour parler des jeux avec Hugo Hay, notre athlète du SBAC qui était donc engagé sur le 5000 mètres, bien qualifié pour la finale qu'il n'a pas très bien gérée. Il va nous dire comment ça s'est passé. Hugo, on l'a rencontré cette semaine et on avait envie de savoir, on avait envie d'évoquer plein de sujets. Comment est-ce qu'il a vécu ces jeux, cette polémique, comment est-ce qu'il se projette sur la suite. La première question qu'on a posée à Hugo, c'est de savoir comment allait le corps.
Le corps est récupère, donc ça c'est le plus important. Je voulais vraiment bien couper après la fin de ce cycle olympique parce que ça a été trois longues années avec des hauts, des bas et c'est compliqué de récupérer, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc c'est pour ça là, cette année j'ai pris une plus grande coupure qui est pas encore terminée d'ailleurs. Mais non, physiquement ça va, c'est juste mentalement il y a encore un peu besoin de temps pour que je sois à 100% frais et disponible pour repartir sur un nouveau cycle. Je le sens et je sais que dans deux semaines, trois semaines là, quand je vais reprendre vraiment, j'aurais vraiment cette envie-là de retourner à l'entraînement, cette envie d'aller courir, d'aller me donner et de me refixer d'autres objectifs. Et à partir de là, on réenclenchera le nouveau cycle. Mais là, il me reste encore 15 jours ici à Bressuire où je vais vraiment rester tranquille et ça va faire du bien.
Bon, ça va faire du bien au corps. La tête, il faut encore la vider un petit peu plus, hein, Hugo.
Beaucoup de pression sur ces années-là pour performer, pour se qualifier, pour après préparer. Et voilà, j'ai encore une année qui n'était pas évidente avec la blessure en mars, puis la blessure en fin avril début mai. Donc c'est pas des saisons qui sont faciles à vivre. J'étais encore en mode un peu à rechercher un peu le temps perdu, un peu contre la montre, et ça c'est vraiment des moments difficiles. Et après forcément il y a la pression des jeux, etc. Moi j'ai pas eu trop de dépression post-jeu, on va dire, parce que je savais que je devais continuer ma saison et donc j'étais conditionné à ça. Donc directement j'ai réussi à me replonger assez rapidement dans la préparation et tout. Mais derrière forcément après, une fois que la saison était terminée, ça retombe un peu et tout ce qu'on a vécu, faut le digérer émotionnellement. Donc voilà, c'est tout à fait logique et je suis pas le seul à avoir pris une coupure un peu plus longue que d'habitude.
Vous l'avez compris, il est en train de digérer cette année, cette Olympiade même, hein, des Jeux de Tokyo aux Jeux de Paris. On va revenir avec Hugo sur ces Jeux parisiens. D'abord, il a été surpris, comme peut-être bon nombre d'entre vous, hein, surpris par l'ambiance.
Non, je m'étais pas trop projeté sur tout ça en fait. Je savais pas trop. Je savais que ça allait être très bien, mais tu sais pas dans quoi tu t'engages. Tu sais pas ce que c'est de courir dans un stade de 70 000 personnes qui est acquis à ta cause en fait. Donc tu le découvres. Donc c'est difficile à savoir. J'étais un peu surpris par l'engouement qui était là dès le début de la compétition, avec les stades qui étaient pleins dans tous les sports tous les matins. Et ça, c'est à partir de ce moment-là, moi, quand le premier jour, tu vois, au badminton ou au ping-pong, les stades qui sont pleins, craqués et qui l'ambiance de fou, là je me suis dit ah oui, ça va être une quinzaine qui va être mémorable. Et ça a été mémorable, vraiment. Cette ambiance, les gens qui étaient là, cette convivialité, tout le monde qui était ensemble, Paris qui était agréable à vivre, le peu que où moi je me suis déplacé dans la ville, et les gens qui étaient sympas entre eux, et tu sentais que ouais, le sport réunissait tout le monde, et puis il y a eu quand même des très beaux moments sportifs, et pas que pour les Français, mais et il y avait cet engouement là, donc non, oui, c'était tout en fait qui était magique.
de ces Jeux Olympiques à Paris. Hugo va garder des souvenirs en tant que spectateur, mais aussi, évidemment, en tant qu'athlète.
J'ai deux sortes de souvenirs, les souvenirs de spectateur où je regardais la compétition la première semaine et tu vois Léon Marchand ou les escrimeuses ou des choses comme ça et tu vois le public qui est en transe et la France qui est un peu dans une sorte de communion, même si bon, ça reste une petite partie, il y en a qui ont sûrement pas regardé, mais ça c'était exceptionnel. Et puis
ça
après...
fait peur d'ailleurs ou pas au moment où t'es dans la salle d'attente, quoi?
Non, pas du tout. Je sais que ça peut faire peur, donc ça dépend des gens, mais moi je vis pour ça. Moi j'adore le sport, j'adore les supporters, j'adore les ambiances dans les stades. Pour moi le sport, c'est pour soi, mais c'est aussi pour partager avec des gens, et c'est pour que y ait cette communion là avec tout le monde. Moi j'adore le supporterisme, je défends ça. Et là, non, moi j'avais juste envie d'une chose, c'était de rentrer dans l'arène et d'en profiter à max, parce que ben c'est dur, hein, on s'entraîne depuis, moi ça fait 10 ans à peu près que je suis vraiment sérieux dans mon entraînement, vraiment un peu comme un moine, donc c'est beaucoup de sacrifices et beaucoup d'énergie, et là être récompensé comme ça, on va dire, c'est formidable. Donc le meilleur souvenir que j'ai, c'est quand je rentre dans le stade pour la série et une ambiance mais incandescente, je tourne la tête, je vois mes potes avec ils avaient fait des banderoles avec ma tête et tout, et puis j'ai harangué le public, parce que justement il faut moi je voulais me nourrir de cette énergie là pas me mettre dans ma bulle et essayer de pas faire attention à ça. Non, justement je voulais le prendre, surtout sur 5000, on a le temps de se mettre dans la course, et toute cette énergie là ouais, c'était magnifique. Moi je prends la tête à un moment donné dans la série, et le stade qui commence à crier, ça me suit pendant tout le tour de piste. C'était ouais, c'est des moments magiques, quand j'ai vu mes proches après et tout, ouais, c'était ouais, formidable, vraiment des jeux formidables,
des moments magiques, mais néanmoins la déception, cette finale.
C'est dur de finir cette aventure qui était magique. En fait, c'est dur de la finir sur une note, enfin deux notes qui sont un peu moins bonnes avec la finale plus les polémiques qu'il y a eu, même si moi je m'en suis protégé. Mais malgré ça, je m'en suis rendu compte après, malgré la déception sportive, je garde quand même de ces jeux un souvenir qui est très très positif. Je suis encore très frustré encore aujourd'hui, un mois et demi après, ou deux mois presque quasiment, de ma performance en finale qui était pas celle qu'on attendait, pas celle qu'on espérait, et qui est très frustrante parce que c'était l'occasion vraiment de faire quelque chose de très bien, et en plus à domicile, au jeu. Donc ça c'est très très frustrant, mais ça reste quand même au-delà de ça une aventure qui était incroyable, et je suis déjà content d'avoir pu aller cette fois en finale et une deuxième fois dans ce stade de France qui était incroyable.
Justement, tu vas te nourrir de cette frustration là pour attaquer ce nouveau cycle?
En vrai, non, j'aurais préféré me nourrir d'une expérience qui aurait été pleine de bout en bout, avec beaucoup de confiance sur ce qui s'est passé. Et le fait d'être frustré, ça m'a enlevé un peu de plaisir, un peu de bonheur. Et en fait, c'est le moteur, c'est ça quand même. Enfin, c'est le plaisir, le bonheur. Et c'est pas parce qu'on réussit qu'on va s'endormir, en fait. Enfin, globalement, les sportifs de haut niveau, que tu réussisses ou que tu réussisses pas, bon voilà, tu profites pas, mais derrière, 3 jours après, 4 jours après, t'es déjà relancé sur quelque chose d'autre et t'es focus sur quelque chose d'autre et tu vas te donner pour ça. Donc c'est pas, si j'avais réussi, je me serais pas dit ok, bon c'est bon, je peux en faire un peu moins. Non, j'aurais eu la rage pareil, mais j'aurais été encore un peu plus heureux, donc je pense que ça aurait été mieux. Mais voilà, non, c'est pas vraiment ça. Mais par contre, je sais, voilà, je vais repartir à l'entraînement, comme j'ai dit, j'ai envie de prendre ce temps-là pour repartir d'entraînement en ayant vraiment faim. C'est ça qui est important, en ayant envie de m'entraîner et envie de performer.
Ouais. Ouais, une expérience qui était en partie, hein, Hugo l'a dit, internie par une polémique qui est née d'une interview très engagée sur le plan politique, avec des propos très critiques envers Emmanuel Macron. Un retour de flamme qui a été immédiat pour le Tervais de 27 ans, avec des messages nauséabonds publiés il y a une dizaine d'années sur Twitter qui ont refait surface. Comment a-t-il vécu cette polémique? Réponse d'Hugo Hay.
Ouais, un peu machine à laver, je pense. Mais moi, je me suis très vite protégé. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais au jeu, donc enfin sur une compétition internationale, donc j'étais pas beaucoup sur les réseaux. Moi, déjà avant la polémique, à partir du moment où je suis rentré dans le village olympique le lundi, donc 2 jours avant ma série, là, il y a eu déconnexion quasiment totale. Donc moi, j'ai pas trop suivi ça, donc j'étais pas trop dans le tourbillon. J'ai été très bien accompagné par mes proches qui m'ont aidé à gérer ça, et par mon coloc de chambre aussi, Quentin Leclésio, qui faisait du 800 au jeu. Donc Donc voilà, je savais qu'il y avait des choses qui se passaient et tout. Je savais aussi que c'était quand même dans la bulle Twitter globalement et que c'était pas, enfin, ça sortait pas non plus. J'ai pas fait le 20h ou quelque chose comme ça. Et surtout, j'étais là pour la compétition et donc j'étais concentré à 2000% sur ma finale. C'était ça qui m'importait le plus. C'était vraiment de réussir en finale. Donc ça va, non, franchement j'ai assez bien géré. Même après, on a continué de couper les réseaux pour pas que ça me revienne un peu dans la tête. J'avais une fin de saison à préparer. Je suis vraiment content d'avoir été bien entouré. Et après, forcément, bah, on a juste dû écrire le communiqué la veille, par exemple. Donc ça te sort un peu de la compète ou quoi. Mais on l'a fait vraiment de manière intelligente et vraiment rapidement avec mes proches. Donc c'était vraiment un petit truc pour moi. Je pense mes proches ont un peu plus pris ça dans la tête que moi, je pense.
Polémique qu'on qualifierait comment de dérangeante néanmoins.
Oui, dérangeante parce que c'est jamais agréable d'être dans cette situation là et surtout avec une partie qui a été détournée clairement et une autre partie où voilà, je pense que c'est compréhensif, hein, et ce langage que j'avais quand on était adolescent et tout, bah, beaucoup de gens l'ont eu. C'est juste que là c'était encore écrit, c'était sur une plateforme qui était différente de avant par rapport à maintenant. Donc il y a des choses qui sont compréhensibles, il y a des choses qui, moi je comprends que ça a pu heurter, donc c'est pour ça que je me suis excusé et tout, je trouve ça normal. Mais à un moment donné, c'est ressortir des tweets de quand j'avais 16 ans, c'est pas très, comment on peut qualifier ça, pas très cohérent, pas très intelligent, je trouve. Donc voilà, c'est comme ça. Après oui, ça m'a dérangé un peu, mais comme je t'ai dit, moi j'étais focus sur ma finale. Enfin, j'étais vraiment en mission, on va dire, en mission, et j'avais, on va dire, 98% de mon cerveau qui était tourné sur la finale. Il y a un petit 2% qui était là, bon, il se passe un peu des choses à l'extérieur, mais c'est tout. Donc je pense que ça a été, et ça m'a pas perturbé tant que ça dans ma préparation de la finale.
Ouais, des gens qui ressortent des tweets comme pour se venger un petit peu de tes déclarations, c'est comme ça qu'on peut le percevoir?
Oui, bien sûr, on sait très bien que d'où c'est venu. Les critiques sur le président, même si moi je les ai trouvées pas très véhémentes, et voilà, c'était pas le centre de l'article que j'ai fait. C'était un article, mon entretien, il avait duré 1h15, donc on a balayé vraiment beaucoup de sujets. Moi, je trouvais l'interview très bonne.
Il a eu lieu quand d'ailleurs cette interview?
La semaine d'avant, au moment des conférences de presse, donc avant que je rentre au village, quoi, que j'étais encore à l'INSEP, et donc c'était cinq jours avant la série, je pense. Donc c'était bien avant. C'est juste que c'est sorti au moment des séries. Donc il y en a qui ont pensé que je l'avais faite entre la série et la finale, par exemple, alors que j'avais autre chose à me préoccuper. Ça je peux le comprendre. Non, comme je t'ai dit, à partir du moment où lundi j'étais rentré dans le village olympique, là il y avait plus de sollicitations, plus rien. On était juste concentrés sur la course. Mais oui, c'est de la vengeance. Et moi je trouve pas ça très pertinent dans une démocratie si à chaque critique, entre guillemets, on essaie de pas répondre sur le fond, mais essayer de discréditer la personne sur la forme. Ben, je trouve pas ça très très normal pour une démocratie. Donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça un peu. C'est, on va dire, le jeu politique. On va dire, moi, je voulais pas du tout rentrer dans ce jeu politique là. C'est un peu ça. C'est dommage, mais voilà, moi, c'est pas ce que je retiens des jeux, clairement. Enfin, en fait, j'ai fait vraiment le point une semaine après les jeux. J'avais Jérôme Jarnoux du Corée de l'Ouest au téléphone, et en lui parlant. Moi, j'ai commencé en lui disant que j'étais déçu de ma performance et que c'était un peu dur à digérer. Puis en fait, en lui parlant, je me suis rendu compte que y a trop de souvenirs positifs qui sont remontés, et qu'en fait, mon expérience olympique, ok, elle a pas été 100% optimale, mais elle a été formidable. Et ça, c'est le plus important. Donc depuis ce moment-là, en fait, ça m'a fait un petit déclic dans ma tête pour me dire, ouais, bon, ok, c'est pas 100%, mais tu peux être heureux de ce qui s'est passé, quoi.
Voilà comment Hugo Hay a vécu cette polémique. En tout cas, il est toujours en phase de réflexion pour la suite. Il y aura forcément quelques ajustements dans sa préparation, mais une chose est sûre, Hugo a toujours faim.
Ah oui, moi j'ai encore faim. Je suis pas rassasié. Je sens que physiquement, je peux encore continuer. Je sens que il y a même, enfin, moi je pense que je vais aller entre 12,50 et 12,55 au moment des jeux, donc c'est-à-dire au niveau du record de France. Et donc il y a encore plein de choses à aller chercher, plein de belles choses. Et je suis un peu frustré des résultats des trois dernières années. À chaque fois, à la fin, enfin l'année dernière, je me reblesse avant les mondes. Là, la finale, elle s'est pas passée comme prévu. Donc oui, j'ai encore faim, et j'ai envie justement de terminer chaque année maintenant par justement pas cette note de frustration là d'avoir un peu loupé la dernière course, choses comme ça, mais vraiment d'être totalement heureux de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça, il va falloir un peu encore bien travailler, un peu de chance aussi des fois, mais je suis prêt à je suis prêt à me replonger dedans une fois que j'aurai terminé ces 15 jours encore où je vais me reposer.
Il sera donc candidat pour les Jeux de Los Angeles en 2028. Le bilan de ce bel entretien, j'espère que vous le qualifiez ainsi, eh bien c'est Hugo qui le dresse.
Est-ce qu'on a tout dit, Hugo ?
Je pense qu'on a fait le tour par rapport au jeu. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages et tout. Et aussi, juste un petit message, même si ça a pas, s'il y avait des bénévoles de Sévrien qui nous écoutent, les remercier pour l'organisation des jeux et pour ce qu'ils ont fait parce que ça a vraiment été une logistique vraiment très très bonne au jeu. Faut vraiment se rendre compte de l'événement que c'est et on a été super bien accueillis, que ce soit par les salariés, enfin ceux qui travaillaient, mais aussi par les bénévoles à chaque fois. Et beaucoup de sportifs m'en ont parlé et m'ont dit que vraiment c'était, tous les bénévoles étaient vraiment aidants, étaient souriants. Et donc voilà, si vous avez participé au jeu, merci à vous.